sommes lundi le 13 mars, il est 14h. Bienvenue à Chiz 94.3 à Écoute Locale, les entrevues. Je m'appelle Émilie Rioux et pendant 60 minutes, je reçois un musicien, une musicienne de la scène locale de la ville de Québec. Pour en savoir plus sur lui, sur elle, on fait le tour de sa carrière. C'est comme un genre de musicographie à Chiz. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir, mesdames et messieurs, la légende Vincent Gagnon!
Aïe, aïe, allô!
Comment ça va?
Ça va toi?
Grosse intro, hein?
Ouais. Oui, quand même.
Pas de pression.
Hein. Légende.
La légende, ben, ça fait longtemps, Vincent, que t'es dans le milieu musical de Québec.
Oui, c'est vrai.
Ouais, quand même. Ben, on va pouvoir en parler. On va, avec toi, traverser le cours de l'histoire, ou en tout cas de la tienne. Et on va un peu parler de, ben, finalement, de la vie de musicien, de compositeur à Québec, parce que Vincent, t'es claviériste, pianiste, compositeur, arrangeur, tu fais quand même pas mal de trucs. Les gens te connaissent plus récemment d'après ton projet Ping Pong Go.
Oui.
Qui, mon Dieu, roule beaucoup en ce moment quand même.
Quand même, très bien,
c'est
ouais.
C'est une grosse année pour un projet que ça fait environ peut-être un an et demi qui est sorti.
Ça Ping fait Pong un Go. Petit peu moins qu'un an qu'on était venu ici pour en parler.
Oui, exactement.
La sortie de l'album.
Donc, avec Pierre-Emmanuel Baudouin qu'on a reçu également à Écoute Locale, les entrevues un petit peu plus tôt cette année. Donc, on risque de reparler de ce projet-là, immanquablement. Et peut-être même d'aller écouter de la musique en fin d'émission, si vous savez pas encore de quoi on parle avec ce projet Ping Pong Go, qui est très énergique et qui va peut-être vous remettre un petit peu sur le piton en ce premier lundi post-mi-session. Ah ouais. Vincent, on commence par le début. Dis-moi, d'où es-tu originaire?
Moi, je suis né à Capcha.
Ah ouais?
Ouais.
Gaspésien.
Ouais, ouais, ouais. Gaspésien. J'ai vécu 9 ans à Capcha. Fait que je connais personne là-bas.
Oui, c'est ça.
Plus grand monde, mais un peu de famille.
Le temps de faire l'école primaire puis de triper ses éoliennes, j'imagine.
Ouais, il y en avait juste une dans ce temps-là.
Ah, qui c'est marchait ça. Pas. C'est ça, l'éolienne à axe vertical qui marche pas.
La grosse, là, ouais. Elle a jamais vraiment marché. Puis, ben, c'est ça, quand j'avais 9 ans, je déménageais à Matane.
OK.
Puis là, j'étais là une dizaine d'années. Puis quand c'était le temps de venir à l'université, je suis venu à Québec, puis j'ai pas bougé de Québec depuis ce temps-là.
Ouais. Quand même, mais tu vois, c'est une histoire quand même similaire ben, à plein de monde, évidemment, mais à la mienne, mais à échelle du bas du fleuve. C'est-à-dire qu'ils ont grandi en Gaspésie, puis à un moment donné, quand il y a le temps de faire les études, c'est là que ça bloque à quelque part, tu sais.
Ouais.
Parce que t'as fait ton secondaire donc à Matane.
Oui.
Ton cégep à Québec.
Cégep à Matane.
À Matane aussi.
Ouais.
OK. T'as étudié en quoi?
En sciences pures.
Pour vrai?
Ouais.
Wow!
Puis je suis venu à Québec pour étudier en génie électrique
okay,
à l'Université Laval.
Ça se dessinait comme ça? Donc, tu étais un gars de sciences et de mathématiques?
Ben, pas tant que... Oui, ben oui, parce que j'ai vraiment de la facilité là-dedans. Puis c'est quelque chose qui me fascine, mais que je me rends compte que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Tant que c'est un hobby ou un sideline. Là.
OK, OK.
Mais là, c'était comme à l'envers. C'était la musique qui devenait un sideline.
Ouais.
Mais disons que je suis quelqu'un qui a de la misère à prendre des décisions. Fait que ne pas prendre des décisions, c'était d'aller étudier dans ce qui était facile. C'était vraiment facile pour moi, les maths, les sciences, tout ça. Fait que je suis allé là, mais je regrettais en même temps. Je rêvais de faire de la musique, mais je faisais pas le move. Puis je faisais de la musique à côté.
T'étais quand même dans l'idée d'avoir un plan plus safe, disons, ou en tout cas plus valeur sûre, avec quelque chose de concret, de cartésien, de le taux de placement était plus peut-être évident à l'époque.
Ouais, le taux de placement était... je sais pas si ça se peut être au-dessus de 100%, là, mais...
C'était bon. Bref, c'était une bonne avenue. Est-ce que t'es né de parents qui sont musiciens ou qui écoutaient de la musique ou...
Ben mes parents étaient tous les deux dans une chorale.
Okay.
Mes parents c'est des profs du secondaire.
Okay.
Prof de maths, ma mère prof de français puis de maths, puis mon père géo, histoire, économie.
Yes, OK. Pis
c'est ça, ils sont à retraite les deux maintenant. Puis c'est ça, mais les deux étaient ensemble dans des chorales. Je sais pas après que je sois né si on continuait beaucoup, mais avant ça ils allaient faire des festivals
se
de chorale.
Ils se sont rencontrés à la chorale.
Ben,
ça pourrait être cute comme histoire, quand même.
Ça pourrait, mais je pense que dans des aussi petites places que ça,
ouais,
t'as pas besoin...
Tu te connais juste parce que t'habites à la même place. Ouais.
Non, c'est ça, tu peux pas te rencontrer...
Tu te souviens pas d'avoir rencontré...
Ouais, c'est ça.
C'est parfait. Ben oui, donc, il évoluait quand même un petit peu avec un petit sideline musical, finalement, comme hobby,
ouais,
à travers
oui.
leur vie.
Oui, puis je pense qu'il y avait une bonne chorale, puis... avec ma mère, on écoutait des fois des disques, on faisait des chorégraphies dessus. Je me rappelle qu'on écoutait un disque de Barbara Streisand, puis un gars un gars avec les cheveux frisés, brun foncé.
OK.
Les deux habillés en blanc.
Tu te rappelles la pochette du vinyle, en
ouais,
fait?
Ouais, on imitait les poses de l'album, puis on dansait là-dessus.
Wow! Wow, wow, wow! Fait que donc, il y avait beaucoup de fun autour de la musique. C'est le fun, c'est vraiment trippant. Est-ce que tu as commencé tôt à jouer du piano?
J'avais 7 ans.
OK.
Mes parents m'ont dit ça. T'aimerais-tu ça, essayer des cours de piano? J'ai dit OK. Ils m'ont emmené chez... dans l'été, c'est une couple de cours privés chez une fille qui s'appelait Manon, je pense, mais je suis plus sûr.
On salue Manon.
Ouais. Puis, tu sais, c'est l'époque où j'étais à Capcha, fait que les souvenirs sont flous. Puis après, quand j'aimais ça, là, j'ai eu des vrais cours de piano. J'ai pratiqué un certain temps sur un... j'avais un petit... un dessin de clavier.
Ah ouais?
Sur une table. Je pratiquais mes tunes sur le dessin de clavier.
Tu faisais du air piano?
Ouais, parce que mes parents, ils attendaient de voir si j'allais aimer ça. Après ça, il y a un ami de mes... Le chef de la chorale, en fait, qui a prêté un Fender Rhodes Mark II suitcase que j'aimerais vraiment retrouver. En tout cas, puis je pratiquais là-dessus.
OK.
Sachant pas, moi, je trouvais juste que ça allait vraiment mal pour un piano. Mais je savais pas que c'était quelque chose que plus tard, je voudrais vraiment retrouver. C'est un piano électrique vintage vraiment hot. Puis quand c'est vu que ça allait vraiment devenir sérieux, ben ils m'ont acheté un piano blanc.
Oh, un vrai de vrai!
Ouais, un petit piano coréen blanc.
Ah ouais, c'est ton premier piano.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est des grosses dépenses. C'est pas comme jouer de la guitare dans la vie où est-ce que tu peux trouver une petite guitare acoustique sur le qui va bien, bien fonctionner. Ça prend quand même un instrument qui est un certain investissement pour des parents. Fait que je les comprends, j'imagine, d'avoir voulu être bien certain.
Ouais, puis ben, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long que ça, je m'en allais en faire pour un bout. Fait que. Mais oui, ils ont bien fait.
Ben oui. C'est quand même exigeant, par contre, le piano. Tu sais, je veux dire, c'est un instrument où est-ce que j'imagine que tu apprends beaucoup. Bon, tes gammes, c'est beaucoup piano classique, j'imagine, quand tu commences comme ça.
Ouais, ouais.
Puis quand tu es jeune, il y a beaucoup de gens qui ont fait des instruments comme le violon, par exemple, quand ils étaient jeunes, mais que ça tient pas nécessairement à la route parce que ça demande une rigueur. Tu sais, il faut pratiquer, il faut quand même, tu sais, pour qu'il y ait une courbe d'apprentissage. Des fois, tu vas jouer dehors moins souvent puis tu pratiques plus. Toi, c'était quoi ta relation avec ça?
Ben, quand j'étais plus jeune, je m'en souviens pas beaucoup, mais je pense que je pratiquais mon temps de pratique que ma prof demandait à chaque jour. Je sais qu'en rendu en secondaire 5, ça a vraiment droppé beaucoup.
Ouais.
Mais avant ça, c'était quand même pas pire. Je pense que... Bon, je me rappelle des fois, mon père, il fait beaucoup de siestes.
OK.
Il faisait une sieste dans le salon pendant que je pratiquais. Puis plus ça avançait dans ma vie, plus j'aimais ça improviser, plus j'aimais ça jammer. Puis là, je me mettais à jammer ou jouer un peu une tune pop. Là, j'entendais mon père arrêter de ronfler, dire « Pratique tes pièces. » Il s'endormait.
Oh, c'est bon. La police était là.
Ouais, mais mes parents n'ont pas été vraiment stricts avec moi. Je sais que des fois, ils ont dû me dire « Hey, il faut que tu pratiques. » Tu sais, comme il faut faire avec les enfants. Mais je me rappelle, cette fois-là, c'était vraiment drôle. Mais c'est ça. Mais il y a un truc avec la courbe d'apprentissage du piano qui est différente. Mettons, une guitare... Pour vrai, mettons, tu m'amènes un enfant de 10 ans, puis une guitare, puis tu me laisses 2 jours avec. Au bout de 2 jours, je joue des tunes.
Mm-hmm.
La première courbe d'apprentissage est vraiment plus facile à la guitare.
Ouais.
Tandis qu'au piano, tu joues, ça sonne bien tout de suite, mais jouer des pièces, t'as vraiment beaucoup de...
Oui, il faut que tu développes de la dextérité énormément.
Ouais, tu peux pas jouer des accords puis jouer une tune des Beatles tout de suite. Il y a vraiment une courbe au début qui est plus difficile. Après, mais là, ça se place, tu sais, parce que pour venir bon dans quelque chose...
Il n'y a pas de secret non plus, là.
Non, c'est ça, mais c'est ça. Au début, il y a un petit côté rébarbatif du fait que t'as pas une satisfaction rapide.
Oui, exact. Ouais. Est-ce que, bon, tu sais, durant ton secondaire, c'est souvent là que les goûts musicaux vont se développer.
Ouais.
Généralement, on se met à avoir des tripes à triper sur un artiste qui va souvent nous suivre une couple d'années encore, tout dépendant des orientations qu'on prend. Toi, c'était quoi tes grandes influences au secondaire, ou en tout cas dans ta période de découverte musicale, d'émancipation musicale?
Ben, le truc qui a fait que je me suis mis vraiment à triper là-dessus, écouter de la musique, c'est vraiment pas original, mais c'est Metallica.
Ah, ben oui!
Ouais.
Ben oui.
Avec qui j'ai une relation amoureuse après, là. J'ai renié Metallica. J'ai trouvé ça juste poche. Après ça, je me suis mis à triper sur les drummers dans la vie. Puis, ben, j'ai jamais vraiment aimé comment le drummer de Metallica joue. Fait que là, là, Metallica, c'était, c'est bon, mais le drum m'énerve. Puis en tout cas, maintenant, j'ai fait la paix avec Metallica.
Ouais,
puis
ouais, ouais.
J'en écoute une fois de temps en temps dans le char. Puis
c'est important.
C'est quand même un gros band. Là.
Ben écoute, je pense qu'en région en général, c'est Metallica, comme à Québec aussi, là, mais ça reste quand même des icônes importantes. Ouais. Je sais pas pourquoi. Partout, c'est, tu sais, va en Beauce, Metallica. Tout le monde a au moins un ou deux chandails de Metallica dans un vieux tiroir, tu sais.
De... Ah oui. Moi, j'ai jamais eu de chandail. J'avais un chandail de Grimmskunk. Ça. Le groupe, par exemple, le premier groupe dont j'ai été fan. Tu sais, Metallica, okay. C'était comme, c'était virtuel. J'avais des cassettes, j'avais des compiles, mais j'ai jamais vu Metallica en show.
Okay.
Tu sais, à Matane, ils venaient pas, là, tu sais.
Non, c'est vrai que, mais maintenant, peut-être que oui, mais dans le temps.
Ouais, c'est ça. Puis le temps que je me suis mis à mettre à aller à Montréal, mettons, des tournois de ping-pong, des affaires de même, ouais. Ben, je m'étais, je trippais plus sur Metallica, tu sais. Mais ouais. Grimmskunk, eux autres, ils venaient souvent à Matane.
Ben oui.
Puis là, ça, Grimmskunk, j'étais vraiment, vraiment fan.
Fait que t'as pu voir vraiment c'est un des premiers gros shows. Mais c'était gros, Grimmskunk aussi.
En tout cas, à Matane, Grimmskunk, c'était vraiment gros. Là, on y pensait un mois d'avance là, quand ils venaient,
ah ouais.
Il venait faire un show à.
Où ils jouaient?
Ils jouaient des fois au café du cégep, là, le temps qu'à y être. Des fois, ils ont joué à l'aréna.
Parce que, tu sais, Matane, dans les années 80, je veux dire, il n'y a pas tant de salles de spectacle que ça, oui?
Ouais, ben non, non. Ben dans ce temps-là, c'était ça. Il y avait l'aréna.
Ouais.
Je me rappelle avoir vu
des shows d'aréna!
Ouais, des line-up, tu sais, Grimmskunk, Groovy Aardvark, ouais. Barf.
Ouais.
C'est,
ouais, l'âge d'or du punk rock au Québec, là, que ça commençait à brasser pas mal.
Ouais,
exactement.
Il y avait sur les îles, le parc d'îles artificielles qui est à Matane, sur la rivière Matane, il y avait un stage extérieur. Il y a le bar à choix à Matane, mais je me souviens pas d'avoir vu Grimmskunk au bar à choix. C'était toujours des setups plus dehors cégep, aréna.
Ouais, ouais, ouais. Ben, ça te permet quand même, comme jeune, de voir des shows, d'avoir accès à de la musique quand même.
Ouais.
Puis de pouvoir, tu sais, voir les musiciens live, c'est complètement autre chose. Là. C'est comme un univers qui s'ouvre, tu sais. Puis comme tu dis, moi, j'ai souvent jalousé mes amis qui venaient de Montréal, qui venaient de Québec, parce qu'ils avaient accès à tellement de culture auxquelles, en région, nous autres, une fois de temps en temps, on se croise les doigts, puis ça devient un événement, comme tu dis, formidable quand il y a quelqu'un qui arrive en ville, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ça rend ça précieux.
Oui.
Ça rend peut-être le rapport au spectacle, quand tu commences, quelque chose qui est quand même rare, qui est précieux, qui est unique, puis qui est un moment que tu gardes longtemps en mémoire.
Oui, tu l'anticipes, puis tu t'en reparles, puis tu sais, c'est... Oh, oui, non, c'était vraiment des milestones, des... Comment ça s'appelle?
Mon Dieu, on fera pas de... Oui,
des bornes.
Des bornes importantes, effectivement. Donc, toujours un peu de musique à travers ça. On est dans la grosse guitare fuzzée quand même, dans ce que t'écoutais, dans ce que t'avais dans les oreilles quand t'étais au secondaire, mais parallèlement à ça, donc, tu t'entraînais au piano.
Ouais, je faisais du piano classique.
Exact. Est-ce que tu voyais bien les liens entre les deux? Est-ce que c'est pour ça que t'as trippé un peu plus sur Metallica? C'est quand même pas la pointure de métal qui est bien fancy, mais on dit toujours que la musique classique puis le métal, il y a une parenté, tu sais, dans justement le nombre de notes qu'on fait, la structure des chansons.
Ouais. Non, pour moi, pas tant que ça, parce que c'est ça, comme j'écoutais plus Metallica, Slayer, Sepultura, un peu de Death, du punk, c'est des musiques que quand même, tu sais, ont eu des influences classiques, mais via le prog, tu sais, comme qui deviennent quand même diluées, tu sais, contrairement à, mettons, je sais pas, d'autres métals que je connais moins, qui est plus mélodique, qui est plus...
Des trucs plus, tu sais, black metal ou genre opératique, là, on va plus trouver un peu le, tu sais, un Nightwish.
Ouais, donc, c'est ça.
Plus proche. Mais tout ça brassait dans tes oreilles, mais t'avais aussi l'espèce de côté piano classique un petit peu plus... Pas délicat nécessairement, mais tu sais, c'est un autre univers musical complètement.
C'est moins raffiné, puis c'est une attitude...
Ouais.
Tu sais, c'est pas le même... Ça a pas le même but, là, tu sais, dans vie de la musique classique. En tout cas, mais puis j'étais assez délicat comme joueur de piano quand j'étais jeune, mais je sais pas.
Mais les deux sont en parallèle. Moi, c'est ce que j'aime dans ce que tu me racontes là, c'est que tout est son contraire.
Ouais.
En même temps, qui cohabitent dans la même personne et qui poursuit des études de sciences et de mathématiques par la suite, puis qui est plus là-dedans. Mais qu'il y a toutes ces entités-là ensemble qui se partagent le même Vincent Gagnon à l'époque. On aurait une petite pause musicale, mon cher Vincent?
Oui.
Bon, tous mes invités à Écoute Locale sont appelés à faire des choix musicaux. Je demande aux gens de sélectionner quelques chansons qu'ils aiment, qui représentent leur univers. Et bref, ils ont carte blanche à chaque émission. Ça nous permet quelque part de se changer un peu les idées avec différentes chansons. Okay. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on écoute? J'en ai quelques-unes, là, au bout de la souris.
Là, je te dirais que vu que là, on n'a pas parlé de jazz encore, on n'a pas parlé de synthé, on a juste parlé de métal. Ouais. Fait que là, je te dirais mon choix le plus random de ma liste, qui est à cause que en plus que c'est une tune que mon garçon il trippe sur Demon Slayer, puis il joue tous les jours au piano.
C'est vrai.
Puis c'est tellement un mélange de styles. Je trouve des fois dans la musique japonaise de manga, de animé puis de série, ils font des mélanges de styles que tu fais « Mais pourquoi t'as fait ça? » Puis si un artiste au Québec arrivait avec ça, je dirais « Mais t'as donc ben pas de goût. Qu'est-ce que tu mélanges là? » Puis en tout cas, bref, ça, j'ai tellement de plaisir à écouter ce tune-là. Puis tu sais, c'est le trip là, que d'une série japonaise depuis un certain temps, d'avoir de la pop mélodique mais métal en dessous puis tout ça.
Ah ouais.
Puis ben c'est ça, la tune s'appelle Gurenge.
Ouais.
De Lisa, c'est la TV version qui dure juste 1 minute et demie.
Parce que sinon c'est quoi, c'est un rhapsody de
sinon ça dure 5 minutes, mais je trouve que l'essentiel est dit en 1 minute et demie.
OK, donc on y va dans cet univers là, on plonge, c'est parti.
Let's go.
Gurenge TV version de Lisa.
Yeah!
Hey, ça rentre au poste, ça!
Ouais.
Puis juste au piano, ton fils.
Ouais, juste au piano.
Fait que là, t'as repassé ça, toi, là, le piano, là. C'est rendu intergénérationnel.
Ouais, ben, c'est pas moi qui a poussé, mais ça s'est fait. À un moment donné, mon garçon, il a fait des cours de chant, après, il a fait des cours de drum. Puis là, à un moment donné, il a dit, hey, tu veux-tu me donner des cours de piano? J'ai dit non, mais j'ai une amie qui est vraiment bonne.
OK.
Puis il fait du piano, là, il est en musique au secondaire, en concentration musique. Là, il fait de la clarinette, de l'harmonie, puis encore des cours de piano. Mais ce qu'il joue à la maison, c'est du piano.
OK.
Ouais.
Quand
c'est
même.
Comme son instrument.
T'es-tu content d'avoir, ou pas peut-être, d'avoir passé un peu ton amour du piano
ben,
à ton gars?
Je suis full content. T'sais. Il joue à tous les jours, puis je l'entends jouer, puis j'aime ça l'entendre jouer. Puis j'entends. Lui, il est pas comme moi à son âge. Lui, il improvise beaucoup déjà.
Ouais.
Lui, il est vraiment dans le mode, le plaisir de jouer.
Ouais.
Il joue pour se faire du bien. Puis il a full de talent. Fait que c'est vraiment le fun. Puis on peut jammer ensemble aussi.
Ouais.
Il a fait des feats deux fois sur des shows d'Ariane Roy.
Ah ouais?
Ouais.
Nice!
Okay, il est venu jouer des synths avec moi. T'sais, j'ai tellement de synths sur stage que j'y en laisse la moitié.
C'est ça.
C'est vraiment le fun.
On aime ça. Fait que là, on te suivait avant la pause musicale, un peu dans le parcours scolaire, mais le rôle de la musique aussi quand on évolue comme personne, puis qu'est-ce qu'on écoute. Pis souvent, on se rend compte quand on écoute quelque chose au début de notre carrière de mélomane, ça nous suit. Un peu, ça explique des fois une couple d'affaires. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que t'as vraiment concentré ton énergie sur le piano? Que c'est passé du hobby à « peut-être que je pourrais faire ça dans la vie ».
OK. Ben, je pense que ça m'a pogné quand j'ai eu un band. Quand j'étais à Matane, à un moment donné, j'ai arrêté le piano à un an, je m'étais acheté une guitare, puis je voulais jouer du métal. Puis il y avait des gars un petit peu plus vieux que moi qui voulaient se partir un band d'hommage aux Doors.
Oh!
Fait que là, clavier, t'sais.
C'est toi le claviériste de Matane à l'époque, là. C'est
ouais,
ça, carrément.
J'avais pas de clavier.
OK!
J'avais juste mon piano.
Le piano, ben oui, ben oui, c'est vrai.
Puis là, je me suis acheté un ou deux claviers, puis des pas super bons claviers. Puis là, on avait un hommage à The Doors, puis là, on jouait, puis là, le monde venait. C'est comme dans les shows de Grimmskong, puis là, tu sais.
T'as fait le lien.
Là, je trippais, j'étais. J'ai commencé mon cégep, je pense, à ce okay. moment-là. Puis là, je me suis rendu compte que, tu sais, faire de la musique, avant, c'était, j'avais fait des spectacles aussi, un peu de chansons aussi, j'accompagnais mon beau-père. Puis, tu sais, des trucs comme ça. Mais là, d'être avec un band, puis faire de la musique, tu sais, que je tripais dessus.
Ouais.
Puis de recevoir du public, puis tout ça, là, j'ai fait comme, OK, c'est quelque chose qui se fait, tu sais. C'est pas juste un truc que tu prends des cours, puis tu.
Ouais.
Puis tu oui. le fais qui est.
Il y a un objectif, il y a une fin en soi, il y a un résultat.
Ouais, ça s'intégrait dans ma vie, dans mes relations sociales, dans tout ça. Fait que ça, je me suis mis à y rêver. Pas à y croire, mais à y rêver, tu sais.
Ouais. Parce que c'était possible, parce que tu l'avais vécu une ouais. fois, puis le moment donné, tu fais, OK, c'est pas si difficile que ça, finalement, arriver. Sur la scène, être en bas, puis monter sa scène, puis avoir son projet. Puis The Doors, c'est quand même pas de la petite bière non plus. En termes de keyboard, c'est des orgues, ça
c'est beaucoup d'orgues, puis ouais. piano, un peu de synthé.
Ouais.
Puis c'était techniquement assez facile, tu sais, je veux dire, pour quelqu'un qui a fait assez longtemps de piano. Mais il y avait un style particulier, puis j'ai vraiment trippé là-dessus. J'étais fasciné aussi par Jim Morrison, son attitude, son charisme, tout ça, sa façon de chanter. Ayant pas connu Frank Sinatra puis tout ça, mais j'avais l'impression que c'était complètement nouveau comment il chantait Jim Morrison. Puis ça a été assez pour me faire complètement décrocher du métal.
Ah ouais?
Puis décider que le métal, c'était pas bon.
Ah ouais, OK. Ouais. Toi, t'es un ou l'autre, tu sais.
Ça a été ça, là. J'ai slacké cette attitude-là.
Là, t'étais rendu prog.
Ouais, là je t'ai rendu hippie.
OK, les
pas prog encore. Prog, ça a pris une autre année avant que je sois rendu prog.
On évolue, on refait le cours du temps. On repart ouais. aux années 60. Fait qu'une petite touche hippie. Fait que c'était un genre de déclic pour dire OK, j'aimerais peut-être ça, faire ça dans la vie. Puis c'est ouais. possible. Puis il y a une petite ouverture, en tout cas, qui se crée ouais. pour toi dans le monde des possibles. Puis donc, tu arrives à Québec pour les études, tu es à l'université.
Ouais.
Puis à ce moment-là, la relation de la musique dans ta vie, t'en étais où?
Ben là, j'avais encore ce band-là avec qui on voulait se mettre à faire des compos, mais ça s'est jamais passé.
Est-ce que tu te souviens du nom du band?
Oui. L'hommage aux Doors s'appelait Scattered Sun.
Yes! That's
pis,
it.
Ouais, c'est ça. Puis on a essayé de faire le conga. Tu te rappelles, le conga, il y a plus ça à cette heure, hein?
Non.
Le gros concours qu'il y avait à l'Université Laval.
Ouais.
On a essayé de le faire l'année que les Interférences Sardines ont gagné.
un autre band. Ouais. Mais ouais, c'est une espèce d'ancêtre de Battle of the Band, là, en quelque sorte, ouais. là, à l'université, ouais.
Il y avait plein de trucs cool, puis mais c'est ça. Fait que ça marchait pas tant. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est ça qui s'est passé. Ben, je passais devant le caso tous les jours en me rendant au Pouliot, puis j'étais triste en regardant le caso à chaque fois, puis je faisais pas le move, j'étais pas game, tu sais.
Ouais.
Puis le premier été, je pense, mon premier été après ou avant l'université, je sais plus, j'avais un ami qui était à Drummondville en musique. Il venait de rentrer au cégep, puis là, il me disait, hey, là, toi, faut que tu fasses du jazz. Fait que là, il m'a comme forcé à faire du jazz. Puis ça a duré... On jamais ensemble, on pratiquait. Puis il me montrait un peu en gros comment ça marchait. C'est très en gros. Puis là, mon beau-père, le chum à ma mère, qui était très entreprenant, il a décidé qu'il nous bookait une gig. Fait qu'on avait une gig tous les samedis à l'hôtel, Riotel, à Matane. Il y avait
okay.
un piano-guitare, il y avait un piano là. Puis, mais je savais pas jouer du jazz. Fait que là, j'ai pratiqué comme un innocent pendant 4 semaines.
Puis c'était quoi? C'était des standards que vous jouiez?
On faisait des standards. Okay. Mais tu sais, il a fallu comme j'apprenne en gros comment ça marchait. Puis là, j'ai fait ça. Puis j'ai fini l'été avec une tendinite, puis j'ai arrêté de jouer.
J'adore ça. Ça a été trop pour toi, le jazz. Tu t'es rentré dedans.
Ouais, c'était la piqûre. En tout cas, la piqûre de cortisone. En tout cas. Mais j'ai vraiment eu la piqûre, puis là, j'ai comme renié. Là, les Doors, ça, bof. Puis là,
C'était rendu le jazz.
C'était rendu le jazz.
De l'amour.
Puis là, c'est là que vraiment que j'ai commencé à faire quand même un genre de processus de professionnalisation.
Ouais.
Puis là, viser peut-être de faire ça dans la vie. Là.
Ouais. Puis aussi, tu parlais de courbe d'apprentissage tantôt. Ouais. Tu sais, quand tu commences, il y a un moment où est-ce que tu maîtrises un peu ton instrument, puis à un moment donné, tu sais, il faut que tu apprennes des nouveaux styles pour essayer d'apprendre des nouvelles manières de jouer. Puis le jazz, ça t'a vraiment ouvert cette porte-là parce que c'est une nouvelle manière de jouer, c'est des nouveaux accords complètement, c'est vraiment un univers. Puis je pense que souvent, c'est pas quelque chose qui nous est, en région encore moins, j'ai envie de dire, mais tu l'as pas d'emblée, le jazz. Il passe pas à radio tant que ça. Il est pas, tu sais, fait qu'il faut vraiment que t'ailles creuser, que t'ailles ouvrir la porte pour vraiment avoir accès à, mon Dieu, énormément d'artistes, un pan d'histoire de la musique aussi qui est assez colossal. Et là, donc, t'es étudié là-dedans finalement ou t'es resté en apprentissage sur le tas avec ta tendinite?
J'ai arrêté de jouer un certain temps. J'ai recommencé à pratiquer graduellement, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, tout ça. Puis là, je me suis fait des amis qui étudiaient en jazz à l'université. Puis là, je me suis mis à jouer avec eux autres. Puis je pratiquais de mon bord, mes affaires avec des livres.
OK.
Puis un moment donné, je me suis trouvé des profs. Là, je prenais des cours de jazz. J'allais voir des pianistes d'un club de jazz. Puis il y en avait des vraiment intéressants, genre comme Gilles Bernard qui joue encore, qui est un pianiste de jazz qui est vraiment vraiment très intéressant, très créatif avec un style, tu sais, tout le kit. On le voit pas beaucoup parce qu'il y a pas de la scène n'est pas grosse pour ça, tu sais. Mais lui, il m'a enseigné un bout. Puis après ça, j'ai switché avec un prof à Montréal. J'ai réussi à avoir une bourse. Puis là, je faisais des allers-retours à Montréal.
Ah ouais? Pour avoir un genre de mentor.
Ouais,
c'est ça. Qui était là pour t'encadrer là-dedans. Wow!
Mais j'organisais ma pratique moi-même. Puis j'ai fait tous mes trucs moi-même.
Tu t'es géré ça, toi, l'apprentissage du piano, finalement.
Ouais.
T'as fait comme, OK, j'ai besoin d'avoir des ressources. Je vais les chercher. Puis c'est comme ça que tu t'es bâti ton apprentissage pour pouvoir être à niveau.
Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai lâché l'électronique. Puis j'ai comme eu la chance d'avoir du chômage pendant un certain nombre de mois. Puis ça m'a donné le temps de... Au bout de 3-4 mois, j'avais assez de contrats pour faire ça dans la vie. J'étais vraiment chanceux.
Wow!
Puis c'est ça. Puis là, à partir de ce moment-là, c'était à temps plein. Fait que là, le matin, je me levais, je déjeunais, je pratiquais. T'sais, puis je me dînais, je pratiquais.
Ouais, puis t'as eu ton trio jazz à un moment donné aussi?
Oui, j'ai eu mon trio, mon quintet. Ouais. J'ai fait des 3 albums.
Ouais, ça c'est comme le gros. Pour moi, c'est. Moi, quand je suis arrivé à Québec, on était là-dedans. C'était pas mal.
2000, fin 2000, début 2010.
Exact.
Là. Ouais.
Exact. C'était Vincent Gagnon, c'était le pianiste jazz, c'était Vincent Gagnon, c'est au trio quartet, machin. Ouais. Puis il y avait des albums qui sortaient, puis j'étais comme OK. Puis bon, dans mon oreille à moi, c'était quand même encore très niché, le jazz, parce que je sortais du cégep, hein. comme tout le monde. Mais oui, à l'époque, il y avait quand même une certaine effervescence. J'ai l'impression quand même, on sentait qu'il y avait des lieux, il y en a encore, mais des lieux de jazz à Québec, assez pour pouvoir t'engager une couple de fois, puis que t'aies des contrats en voulant démarrer tes affaires.
Ben dans ce temps-là, c'était 100-150 fois par année que je jouais du jazz. Là.
C'est quand même assez phénoménal tout ça. On va en reparler après la pause de tout ce volet-là. On va aller écouter de la musique aussi dans quelques instants. On est à Écoute locale, les entrevues, c'est 60 minutes de jazzette. Et aujourd'hui, je reçois Vincent Gagnon.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Artaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie, j'arrive!
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Cheese a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
cette tune-là qui me reste toujours dans la tête.
Pas capable d'arrêter de la chanter.
Pas capable, je me lève le matin, je chante la ligne de piano. C'était Line-Up de Lenny Tristano Trio. Vincent, pourquoi t'as choisi ça?
Ça, c'est une pièce que c'est un virage dans ma vision du jazz, de comment apprendre le jazz. Puis c'était une révélation. J'avais pris un cours avec un pianiste de Los Angeles qui s'appelle Alan Broadbent. Puis c'est lui qui m'a fait découvrir Tristano. Puis depuis ce temps-là, Tristano est devenu instantanément mon pianiste préféré.
OK.
Ouais.
C'est un coup de cœur, hein, c'est.
Ouais.
Mais c'est parfait. Il y a une nouvelle révélation. C'est comme, ah, c'est ça que j'aime.
Ouais,
voilà.
Ouais,
puis là,
ouais,
t'as comme ta bulle. Puis là, on y va à fond là-dedans.
C'est ça.
Puis donc, tu me disais que t'as appris à jouer cette chanson-là, mais que t'as tenu du fil à retordre quand même.
Oui, je réussissais. C'est jouable. La vitesse, c'est correct, mais j'étais pas capable d'avoir le son. Puis. Il est tellement dans le fond du clavier. Cette vitesse-là, combinée à ce volume-là, ça marchait comme pas. Puis, c'est ça, après ça, j'ai fait de la recherche, puis je me suis rendu compte que lui, il avait fait enregistrer le drum, puis la basse. Il avait tout ralenti de moitié avec le tape, là.
Ouais.
Parce que, bon, il n'y avait pas d'ordi dans ce temps-là.
Ouais.
Puis, il a joué son piano complètement dans le bas du piano. Puis après ça, il a tout remonté.
Ah, donc, là, le pitch change. C'est ça.
C'est un octave. La moitié de la vitesse, c'est exactement un octave. Fait que c'est les mêmes notes, mais.
Incroyable.
Fait que c'est ça. Mais il était trop tard quand je l'ai su, je l'avais déjà appris.
Est-ce que t'étais du genre, quand justement tu te prêtais, tu dois le faire encore aujourd'hui, remarque, là, quand tu apprends une chanson de quelqu'un d'autre, quand tu repiques une chanson, est-ce que t'es du genre à t'entêter, mettons que ça marche pas comme tu veux du premier coup? Justement, est-ce que tu travailles ou ben non, tu la laisses reposer puis tu reviens plus tard?
Je te dirais que de base, j'aurais tendance à m'entêter. Là, ces temps-ci, j'ai moins le temps. Mais oui, ça me bug. Pas être capable de faire quelque chose.
Ouais. C'est de faire comme moi qui m'a l'avoir, là. M'a trouvé qu'est-ce qui marche pas.
Bon, oui.
C'est de la pratique. Donc, on est dans ton histoire, mon cher Vincent. Au détour de tes études universitaires, où est-ce que là, tu me disais, t'es allé chercher des mentors en piano, des profs de piano pour essayer d'augmenter ton niveau puis de vraiment aller à fond dans le piano jazz, qui était la nouvelle affaire que t'avais entre les mains, qui est une discipline assez particulière. Ça prend des années, maîtriser ça. Ça se peut-tu?
Ouais. Oui, c'est des années, des heures, puis maîtriser... C'est un grand mot, là.
Oui, c'est ça.
C'est sans fin, là. T'sais, tu pourrais juste faire, juste pratiquer.
Oui.
Mais il y a un moment donné, il faut que tu arrêtes aussi, puis tu choisisses qu'est-ce que tu veux exprimer.
Mm-hmm.
Puis que tu te mettes à. Je vais pas être prétentieux, mais que tu te mettes à faire de l'art avec ce que tu as, là. T'sais.
Exact. Et donc, à être plus créatif à travers ça, parce que le jazz a aussi ce volet-là où est-ce qu'il y a énormément de standards jazz, où est-ce que tu peux passer ta vie, c'est comme faire des covers, c'est comme avoir un band de covers finalement, tu peux passer ta carrière à faire des standards ou en interpréter à ta manière des standards, tu sais, c'est quand même toute une partie du jazz, de la scène jazz qui est ça en fin de compte.
Oui, ben l'interprétation est toujours vraiment ultra importante, souvent plus importante que la composition, même quand tu joues tes compositions.
Mm-hmm. À quel moment toi tu t'es mis à composer davantage?
Il y a eu une réunion un moment donné, il y avait un programme de bourse pour la région de Québec, pour la relève, puis je suis allé à la réunion, j'ai fait la demande de bourse. Fait que là, j'avais une couple de compos que j'avais faites, mais vite fait, là, une tune que j'avais composée dans la douche, une tune que j'avais...
Sur ton air piano de douche?
Ouais, ouais. Je consacrais pas beaucoup de temps à composition, mais je pense que j'ai quand même un bon sens du hook, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que là, c'est ça. Fait que j'avais des tunes, j'ai eu la bourse, j'ai fait le disque. J'ai trouvé ça vraiment horrible, faire le disque. Mais finalement, ça a quand même... relativement pour du jazz local, ça a quand même bien marché, tu sais.
OK.
Ouais.
T'as trouvé ça horrible parce que c'était stressant, parce que c'était ta première fois?
Gros manque de confiance en moi. Tous les musiciens de mon band étaient plus avancés que moi. J'étais le plus jeune. J'étais vraiment insécure. Je perdais mes moyens. C'était vraiment, je me rappelle sortir cet album-là, pas en me tapant des mains, là, mais c'est vraiment...
Ouais.
Down.
Ouais. Mais finalement, ça n'a pas été si pire que ça à la sortie.
Ça n'a vraiment pas été si pire.
Ça t'a rassuré un peu dans tes moyens.
Ouais. Puis l'album, je m'entends avoir de la misère à jouer, mais c'est comme bon pareil finalement.
Ouais. T'as quel âge à ce moment-là?
25.
Ouais. Ce qui est quand même, tu sais, dans la vingtaine, souvent, c'est là que ça commence, les premiers projets, les premiers albums, ouais. et tout.
Mais même, non, plus 28, 29, de quoi de même.
Les albums trois ans plus tard, jazz. Tout d'un coup, t'es late bloomer. Mais
tu sais, pour le jazz, c'est une autre affaire aussi, c'est ouais. long.
C'est vers quel âge que tu deviens? Parce que faut que tu maîtrises ton truc, veux pas, tu sais, j'imagine que ça... Tu sais, vraiment sortir des albums de composition, c'est pas nécessairement à 21 ans et quart que tu vas le faire.
Ça peut arriver, tu sais. Tu sais, t'as des Karl Mayotte là, qui aurait pu le faire à 17 ans, là. Mais moi, c'est parce que, tu sais, j'ai vraiment bifurqué là, avec ouais. les sciences et tout ça. Fait ouais. qu'il y a eu comme une période rattrapage. Tu sais, que là.
Est-ce que t'as assumé que tu savais que t'étais en mode rattrapage puis ouais. qu'il fallait que tu y ailles à fond puis que tu prennes cette direction-là? T'as fait ce choix-là.
C'est ça, mon but, là, c'était venir bon. C'était pas. Sortir un album, ouais. je savais même pas si j'allais faire ça un jour, je voulais juste venir bon.
Ouais, exact. Mais force est d'admettre que finalement, tu as quand même pris goût parce que tu t'es remis à composer, puis il y a eu quand même quelques ouais. albums qui ont suivi tout ça.
Trois albums au total de quand jazz.
La scène jazz à Québec à ce moment-là, ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu t'inscrivais dans un très très grand bassin? Y avait-tu beaucoup d'opportunités de faire des spectacles? Y avait-tu beaucoup de clubs de jazz justement?
Ben, mettons un peu avant ça, il y avait le Clarendon qui est. Tu sais, qui a un truc dont, tu sais, Québec, c'est pas. Le jazz à Québec, c'est pas vraiment remis de quand ils ont arrêté de. Ben, ils ont arrêté puis ils ont recommencé, ouais, mais après, ouais. c'était plus intéressant.
Il y a eu l'âge d'or du jazz au Clarendon.
Oui, ben, ça, c'était vraiment un pôle. Il y avait de la musique là trois fois par semaine, puis une grande partie de l'année, sept soirs semaine aussi.
Wow!
Tu pouvais arriver là avec ton band, trois soirs de suite, tu t'installais, puis là, tu jouais, tu sais, tu pouvais jouer des compos, tu sais. Tu jouais tes compos pendant trois. Où on improvisait ses standards, mais on pouvait aller loin, tu sais, on jouait. 3 heures par soir, 3 soirs par semaine.
C'est quand même de la musique, ça, là.
Ouais, des fois, je me rappelle, je jouais là 15 soirs de suite, tu sais.
Tabarouette.
Donc là, ça se développait, on avait l'interaction entre les musiciens, tu sais, on jouait tout le temps, on était rendu qu'on se collait des standards, mais on se disait pas c'était quoi, il y en a un qui jouait des trucs, puis là, fallait deviner. Puis on embarquait, puis à un moment donné, c'était comme 3 minutes d'improviser, puis moi, je savais pas encore c'était quoi la toune, tu sais. Puis, tu sais, on pouvait vraiment développer des aptitudes de prise de risque. Qui était pas dans le mode je compose 4-5 tunes, je demande une bourse pour en composer 4-5 autres, je fais un disque, je fais des pratiques, je fais un disque, puis je fais quelque chose. Tu sais,
la structure musicale.
La structure, ouais, comme plus dans l'industrie de la musique. Ouais. Pour le jazz, c'est vraiment difficile d'avoir un assez de volume de performance mm-hmm. pour développer un lâcher-prise. Ouais.
De l'espace pour pouvoir le
ouais,
faire.
Là, on avait ça à Québec, tu sais. Puis là, t'avais le Foubar qui le fait toujours, puis mm-hmm. c'est toujours aussi le fun. T'as eu l'argot après.
Puis là, l'argot en Basse-Ville, qui est maintenant devenu Tex-Mex.
Tex-Mex, ouais. Puis c'est ça, il y avait toutes sortes de trucs comme ça. Tu sais, côté festival, c'était relax, mais côté quotidien du jazzman. Ouais. Tu sais, t'allais au Clarendon, il y avait d'autres musiciens qui finissaient de jouer au Château Frontenac qui passent au Clarendon avec leur tuxedo. Tu sais, il y avait des jam sessions, il y en a encore. Mais c'est ça. En tout cas, mais là, c'est sûr que là, je parle de la communauté que je connaissais
ouais.
versus là, celle de maintenant que je connais moins. Fait qu'il y a sûrement des choses de maintenant que je connais pas.
Absolument. Mais tu sais, il y a le Saint-Angèle aussi qui est encore un des ouais. lieux importants. Mais tu sais, il y avait des lieux donc où est-ce que tu pouvais rencontrer le monde, la communauté du jazz. C'est là ouais. que le monde se tenait. C'est là ouais. qu'il y avait comme la vie. Puis t'allais là, puis tu disais, OK, ça se passe.
Oui, oui. Puis souvent, le Clarendon, le vendredi, c'était full. Là. Il y avait du monde assis dans les marches. Là.
Wow!
Ouais, c'était full de fumée aussi, mais en tout cas, c'était full.
Mais tu sais, quand tu commences en musique, c'est quand même un bon vent dans les voiles.
Oui.
Tu sais, ça te donne quand même la confiance de dire, je pense que je suis à ma place, puis je suis mon X, puis j'ai du fun.
Ouais.
Puis il y a du monde ouais. aussi qui sont là pour le regarder. Parce oh, que oui. ça aussi, ça fait partie du calcul.
Ouais, vraiment.
À partir de quand tu t'es mis, parce que là, tu joues avec plein de monde, t'es sur la scène avec plein de monde tout l'été, tu fais le tour des festivals depuis quelques années, tu sais, il y a Kid Kuna, Ariane Roy, Lou Adriane,
oui.
Mon Dieu, name it, là.
Il y a eu Hubert Lenoir, Tire le Coyote, il y a Paul-André Cassidy, puis là, ben là, ça, c'est ceux avec qui j'étais plus régulier, là, tu sais, mm-hmm. que j'ai fait la tournée puis tout, puis là, il y a exact. Tout le monde avec qui je fais des albums.
Ouais, là, tu joues sur l'album, là, finalement, sur le spectacle, tu suis pas nécessairement, mais
ouais.
c'est toi qu'on entend sur l'album, fait qu'il y en a vraiment plein de ça. Puis ça, c'est comme dans l'univers, on va dire, de l'effervescence de la ville de Québec aussi dans la musique. Je veux pas, toi aussi, ça t'a permis de faire du pouce un petit peu là-dessus, puis
ouais.
d'avoir différentes opportunités, dis-je, de jouer. À partir de quand t'as mis l'orteil dans autre chose que du jazz?
Ben, vraiment, tu sais, j'ai fait, tu sais, je faisais de la chanson de temps en temps avant, puis des trucs. Mais pour dire, y aller vraiment, c'était quand je suis venu un peu blasé, quand c'est venu comme moins le fun à Québec, puis je sentais qu'il pouvait pas rien se passer de plus d'autre que continuer à pratiquer, mieux jouer, mais sortir un album, espérer de faire les festivals. Puis tout ça, je commençais à trouver ça, j'étais un peu déprimé, j'étais un changement dans ma vie, de au niveau amoureux aussi, tu sais, tout de suite comme vraiment. Puis là, j'avais le goût, j'ai bon, je peux-tu me partir dans un projet de jazz punk, tu sais, là je repensais à quand j'étais plus jeune, tu sais. Puis là, j'ai rencontré ma blonde, puis dans les premières dates qu'on avait, elle dit, hey, il y a le lancement de Keith Kuna j'allais dire à l'Intermarché, c'était au Cercle.
Au Cercle. Une coupe de porte voisine.
Au Cercle. Fait que là, je dis, OK, j'ai une gig, je vais après. J'étais arrivé, il avait fini. Je suis parti avec le CD. Puis là, j'écoute ça, je dis, hey.
C'est le premier album, là.
Ouais, Les années Monsieur. Ouais. Là, j'ai écrit à Tristan McKenzie, qui avait réalisé l'album, que je connaissais. Je dis, hey, Tristan, cherches-tu un clavieriste, tu sais, c'est chaud. Il dit, ben, on est en train de monter un band, il manque les claviers.
Ben non.
Fait que là, c'est ça. Fait qu'il y a eu Keith Kuna. Avec qui je me suis mis à jouer. Puis là, j'étais content parce qu'il y avait le côté punk.
Le côté chanson aussi.
Le côté chanson. Puis le côté. Il y a un côté cabaret aussi, des fois, dans ces trucs. T'sais. Fait que là, où là, je pouvais rejoindre le côté jazz. Fait que là, il y avait une ouverture. T'sais.
Ouais.
Fait que là, ça a été étape 1. Après ça, ça a été plusieurs années comme ça que je continuais à faire du jazz, jouer avec Keith Kuna. Des fois, j'ai enseigné un bout au cégep, au Campus Notre-Dame de Foix. J'étais accompagnateur là-bas.
À travers tout
en
ça.
En musique, ouais. Puis là, un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. C'était à peu près en même temps, j'ai rencontré Tire le Coyote. Là, je jouais aussi avec Paul André. Il y a eu Paul André vers 2012. Paul André qui a dit vraiment de la chanson. Mais que là, dans ce temps-là, on faisait des tournées. On a fait des tournées en Argentine, Russie, des affaires vraiment exotiques.
Vous le savez peut-être pas à la maison, mais Paul André, qui a dit dans le domaine de la chanson française, s'est promené en tabarouette.
Oui, fait que là, je suis arrivé dans une période qui avait du promenage très loin.
Oui.
Il y a eu ça. Puis là, après ça, il y a eu comme. J'ai rencontré Tire le Coyote, que là, je commençais un peu à travailler sur son premier album. Puis là, en même temps, il y a eu comme Hubert Lenoir qui m'a appelé pour faire de la musique instrumentale d'accompagnement d'un disque qui s'est retrouvé à Darlene, finalement.
Oui.
Puis là, il y avait Lou qui travaillait, qui faisait la voix.
Ouais.
Puis qui était la fille de Paul André, qui gardait Loïc. puis Loïc, c'est mon garçon.
Oui, exact.
Puis là, en tout cas, il y a comme tout ça qui s'est entremêlé, puis ça a été vite. Là, je me rappelle quand il y a eu comme Hubert, là, après ça.
Ah, ça a décollé.
Là, l'album de Lou. Puis là, tout d'un coup, je faisais presque plus de jazz. Puis là, je faisais des shows tout le temps, un peu partout.
Mais c'est ça, on se rapporte il y a environ, je sais pas, 4-5 ans, puis là, genre, boum, là, tout explose, puis là, tout le monde se met à tourner. Puis c'est là, justement, je pense que t'as mis les deux pieds dedans. T'as fait comment? Puis en plus, ça te permet de varier, j'imagine, parce que c'est tous des styles musicaux qui sont différents.
Des personnalités différentes. Mais c'est parce qu'avant ça, il y avait pas vraiment d'endroit où mettre les deux pieds, là. Il se passait pas grand chose. Au niveau, si tu voulais faire de la compo à Québec, pop, là, il fallait que tu ailles à Montréal.
Ouais.
Tu sais, il y en avait comme ça, il y avait Tire le Coyote, il y avait Karim, il y avait.
Gabriel Chang, un petit peu, qui était là. Puis
ça commençait quand t'as fait la voix, mais ça, c'était déjà un peu plus tard, tu sais. Puis là, t'avais Keith Kuna. T'avais des trucs, puis là, il y en a que j'ai oublié, c'est ça.
Mais il y en avait une poignée, là.
Ouais, puis tu le faisais dire tout le temps, pourquoi t'es pas à Montréal?
Ok,
t'es à Québec. Puis, mais là, à Star, c'est plus ça. T'sais.
Non, on pose pas la question, je pense. C'est une petite victoire, quand même.
C'est vraiment le fun. Fait que là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que la 20, c'était court.
Oui, exact. C'est bon, j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Je m'en voudrais, Vincent, de pas te parler de ping-pong.
Oui.
Ça serait un sacrilège, parce que là, bon, les gens qui te connaissent avec Ping Pong Go, connaissent peut-être l'anecdote, peut-être pas, mais toi, dans la vie, outre tes activités de claviériste, de pianiste, t'es un pongiste.
Oui, oui.
C'est comme ça qu'on appelle les...
Un pongiste, oui. Quelqu'un qui joue au ping-pong,
les joueurs
c'est
de
un pongiste.
Exact. Ça aussi, vous l'aurez appris à Écoute Locale, les entrevues. Fait que t'as une passion pour le ping-pong qui te suit depuis super longtemps.
Ouais.
T'as joué au ping-pong à des plages, t'avais des tournois, tu t'es promené.
Ouais.
C'est une longue histoire, ça, là.
Oui, ça commence, ça date de ma tante. J'ai commencé un peu sur le tard, là, secondaire 1, milieu secondaire 1.
Parce qu'il y avait sûrement une table de ping-pong
à la cafétéria.
C'est ça, dans les locaux étudiants.
Ouais, puis là, ben, je me rendais compte que j'étais pas pire, puis je faisais fâcher les autres le monde qui jouait contre moi. Puis ah, c'était... Je me suis fait un ami qui m'a dit ah, « viens au club ». Puis là, après l'école, il y avait...
Le ping-pong club, ah ben!
Ouais. Puis là, pas longtemps après, ben là, je jouais cinq jours semaine. Puis là, un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais pas... Il y avait pas juste les tournois dans l'Est du Québec. Là, je pouvais me ramasser de l'argent puis aller faire des tournois provinciaux puis wow. À Montréal. Fait que, tu sais, de matin, c'était compliqué. On n'avait pas vraiment de coach puis tout ça. Puis...
OK.
Fait que des fois, il y avait des... En tout cas, mais on faisait ça. Puis j'aurais vraiment aimé ça faire. Je pense que ça, c'était comme. Ça me passionnait encore plus que la musique à ce moment-là. Mais là, quand je me suis mis à jouer dans un band, j'ai comme délaissé le ping-pong au moment du cégep pendant 12 ans.
Oh!
Puis j'ai repris le ping-pong en même temps là, que j'ai eu ma transition jazz vers. Tu sais, comme.
OK.
Puis j'ai repris le ping-pong là. Puis là, ça a été. J'ai pas relâché. J'ai slacké des fois quand j'ai eu un enfant. Puis tout. Là, c'était mon enfant, il joue avec moi.
Voilà. C'est ça, t'as fait un mini Vincent. Là, c'est ça qui se passe.
Ah, y a en masse de talent que j'ai pas dans d'autres affaires.
Fait que t'as un nouveau partner. J'adore ça, de ouais. Ping-pong. C'est ça. Mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que je trouve que. C'est un peu à l'image de ton parcours musical aussi. Tu sais, le ping-pong, puis le on va quelque part, on y retourne, on se promène de part et d'autre dans les extrêmes, tu sais, puis ça rebondit.
Ouais, ouais, mais c'est,
il y a de l'action.
C'est tellement drôle que tu me dises ça, parce que tu sais, tout le monde me dit ça. « Hey, tu fais plein d'affaires, t'es polyvalent. » Puis il fut un temps, il y a pas si longtemps, mettons, il y a 10 ans, je pense que je méprisais presque la polyvalence.
Ah ouais?
Ouais, moi je trouvais que...
La virtuosité, c'est mieux.
La spécialité. Moi, je tripais sur des musiciens puristes, des trucs comme. Pas de la musique de compromis. Puis, c'était comme. C'était le jazz ou c'est rien. Ou,
ouais, ouais.
Puis là, je me ramasse comme à me faire dire que je suis polyvalent.
Tu vis bien avec ça?
Ouais, ouais, je suis bien content.
Ouais. Hey, on va aller en musique une autre fois.
Oui.
Avant de. Mon Dieu, son ligne est déjà vers la conclusion de ce beau parcours-là. Qu'est-ce qu'on va écouter?
Sa dernière toune ou
ouais.
Ah shit. Ok, ben il faut que je mette quelque chose. Il faut que je mette quelque chose de québécois.
Ok.
Ben vu qu'on parle du milieu au Québec, mais ben, parlons de tiens, j'ai Thierry Larose.
Ah mais oui, qui vient de sortir un album qui s'appelle Sprint vendredi ouais. Dernier.
C'est un des artistes avec qui je joue pas que je préfère.
C'est un message que t'envoies ou non?
Non
c'est...
ben on joue ensemble, on est amis, on joue avec Lou puis c'est tout ça, mais. Je suis pas dans son band, puis j'aime vraiment ce qu'il fait.
Ouais, et ça vaut la peine d'y prêter les oreilles, je vous le conseille absolument. On en parlera la semaine prochaine, lundi prochain, au Club Critique à Chiz.
Ah, oui.
Si la tendance se maintient, on va écouter un bout de « Si tu comprends pas maintenant, tu comprendras peut-être jamais », premier extrait de l'album « Sprint » de Thierry Larose.
D'admettre finalement qu'on a changé. Si fort le bruit, quand ce qui murmurait maintenant crie. C'est pas la mort, mais c'est pas la vie. Même si t'as pas fait exprès, on peut pas dire que t'as fait
un peu de piano dans cette yeah. Chanson-là de Thierry Larose, mais ce n'est pas Vincent Gagnon qu'on entend, non?
Non, mais il y a deux raisons pour ça. Premièrement, j'ai pas le temps. Puis deuxièmement, Thierry, il a vraiment pas besoin d'un claviériste.
Oui, ça va bien. Hein?
Il joue vraiment bien.
C'est un très, très bon pianiste.
Moi, des fois, je le regarde jouer puis je viens quasiment jaloux. Il a tellement de facilité sur le piano. Là.
Ouais,
il est vraiment bon.
Mais ça lui va bien. Et, on entend beaucoup de piano à travers ses chansons aussi sur le dernier album. Fait qu'allez écouter ça. C'est une sélection de mon invité Vincent Gagnon avec qui on a encore quelques minutes seulement. Mon Dieu Seigneur, faut qu'on parle de Renaud. Non, on n'a pas le choix.
Puis on va pas parler de Ping Pong Go, ben.
Non, mais
on peut essayer de faire un mash-up.
Moi, je pense que je vais réussir à passer de Renaud à Ping Pong Go. OK? Fait que, on part ça avec Renaud parce que je trouve ça drôle. C'est mon petit inside joke avec toi parce que on s'est déjà croisé un moment donné en Gaspésie. Puis je t'ai dit, ah, moi, Renaud, je comprends pas le buzz. Je comprends pas, j'aime pas ça. Puis toi, grand fan de Renaud, tu t'es mis à me lister des chansons qu'il fallait que j'écoute absolument. T'sais. Puis comme, mais voyons donc, ça se peut pas.
Ouais, je me rappelle, j'étais dans ta petite vallée. Ouais. Partez d'après chaud, j'étais baveux, je te disais, ben là, check ta chanson française.
Ah ouais, tu connais rien, la jeune, pas que ton trou. Mais tu m'avais, puis j'avais dans mon téléphone une liste de chansons. Je suis comme, OK, moi, fermez de voir. OK, c'est correct, on va y aller. Puis au final, j'y suis revenue plusieurs fois quand même. Plus je suis un petit peu moins baveuse avec Renaud, là, je dois dire que peut-être que je partage pas un amour aussi inconditionnel, mais son influence sur la chanson française est quand même indéniable, puis dans l'attitude aussi, j'ai l'impression. Puis je recevais Kid Kuna il y a deux semaines.
Ah ouais.
On avait un petit peu aussi la même discussion.
Mais ça vient de lui, ma passion pour Renaud.
Ah, c'est ça. Ouais, hein? Ouais. Voilà, on vient de trouver notre doigt sur le responsable. Mais non, c'est ça, dans l'attitude plus rocker, plus baveux, justement, j'ai l'impression. Et ça, à l'époque, il y avait peut-être moins ça dans la chanson française.
Ouais, il y avait un côté punk, tu sais, qui s'est perdu après, mais il y avait vraiment une attitude, puis malgré le fait, souvent les gens aiment pas tant Renaud à cause de la voix, la façon de chanter, ou
il enchaîne. Il y a un thème difficile aussi, là, ouais.
Ouais, puis il enchaîne les chefs-d'œuvre avec des chansons comme. Il y a vraiment des chansons que j'aime pas pantoute, tu sais. Puis je trouve que musicalement, souvent, ces disques, ils sonnent pas super bien, les arrangements, comme moi, j'aurais pas ça, j'aurais fait. Puis,
ouais.
Tu sais, fait que, mettons, j'en parle avec Alexandre Martel qui capote sur les prods d'albums. C'est sûr que lui, Renaud, est. Il écoute ça, il dit, ouais, mais pourquoi?
Pourquoi ça a eu du succès déjà? Puis, mais t'as comme un Mistral gagnant, puis t'as d'autres affaires à côté. C'est ça. Il y a comme deux, trois tunes que je fais, OK. Okay.
Ben, moi, il y en a plus comme 30-40.
Oui,
là,
c'est
mais,
ça.
En tout cas.
Tu mets des zéros au bas de tout ça. Mais, non, mais en tout cas, faites vos devoirs. Là. Je vous dis, comme écoutez Vincent, puis m'amener, allez faire vos petites recherches musicales, trouvez celle qui vous plaît dans le tas pour comprendre un petit peu le phénomène. Ceci étant dit, ce qui est intéressant entre Renaud et Ping Pong Go, c'est que Renaud a amené une attitude, puis sa couleur à un style qui avait tenté de se démarquer. Et avec Ping Pong Go, c'est un peu ça, j'ai l'impression, que vous faites également, c'est-à-dire de rentrer dans une esthétique musicale précise, puis de le faire avec une attitude très rock. Et ça, je pense que c'est la clé du succès du spectacle de Ping Pong Go, aussi quelques éléments surprenants. Puis comme on a parlé quand même avec P.E. Baudouin, notamment de la harpe laser et de l'histoire de la fameuse harpe laser. Faut quand même pas oublier que Ping Pong Go, c'est énormément de keyboard.
Ouais.
Bon, c'est né un petit peu donc de votre complicité à vous deux, qui jouez énormément ensemble dans tous les projets qu'on a mentionnés tout à l'heure aussi. Mais là, ça se matérialise beaucoup ces temps-ci en spectacle. C'est une chose de triper puis d'étager les couches de keyboard sur un album. Maintenant, t'es capable de le faire sur scène avec une armée.
Ouais, une armée de synthé.
De synthé.
J'ai un deuxième lieutenant, là, une deuxième lieutenante.
Lisandre.
Qui devient mon miroir, mon alter ego sur scène, puis qui est tellement bonne.
Ouais.
Puis c'est ça. Fait que là, on est rendu à 9-10 synthés sur scène, là.
Incroyable.
À deux,
là, dis-moi, à quoi ça sert, cette empilade de claviers-là? Pourquoi il y en a autant?
Ben, je suis quelqu'un qui a de la misère à faire des choix.
Oui, tu l'as dit tout à l'heure.
Ouais. Fait que là, j'aime ça. OK, là, ben, pour tel genre de son, j'aime ça avoir ce synthé-là. Puis là, peut-être que je pourrais avoir un synthé qui ferait les deux, mais c'est tannant. En tout cas. Puis aussi que c'est beau. Ça flash.
Oui, tout à fait.
Puis on bouge pas. On bouge pas sur scène. On peut pas se déplacer. On joue des claviers. Fait que si on a juste un petit clavier, puis c'est un show de clavier, ça, je trouve que visuellement, ce que tu regardes versus ce que tu reçois.
C'est moins impressionnant.
Il faut que si tu reçois quelque chose de massif, c'est le fun de voir quelque chose de massif. Puis c'est vraiment un beau trip là, d'étendre les bras d'un bord puis de l'autre puis d'avoir tout le temps un clavier au bout de la main, tu sais.
C'est pas ça pour Neil Stram qui justement joue avec une espèce d'armée de piano.
Il fait ça aussi. Ouais. Puis tu sais, t'as les gars de prog, puis mais je dis les gars en tout cas.
Les musiciens, les musiciennes, les...
Les gars et filles et autres.
Il y a bien plus de gars là-dedans. Là,
Non, mais je sais, c'est ça. Si tu regardes des vidéos de jazz fusion puis de prog des années 70, tu vois pratiquement rien que des gars.
C'est dude.
Mais bon, j'essaie de changer mon vocabulaire pour... inciter les jeunes filles à
faire, bien sûr, bien sûr.
En tout cas, et pas juste les filles. En tout cas, ben,
tout le monde.
On se comprend.
Bon. On se comprend.
Puis, ce que je veux dire, les gens de prog, ils ont souvent ça, tu sais, il n'y avait pas la technologie pour avoir des synthés qui faisaient 3 millions d'affaires, fait qu'il y avait des...
Ouais, exact. Ça s'inspire un petit peu de ça aussi.
Oui, bien aussi. Puis c'est surtout que c'est un projet de plaisir. On veut avoir du plaisir puis dégager du plaisir. Ouais. C'est vraiment... Oui, on fait des affaires des fois whack, des fois compliquées, des fois tout ça, mais les tunes sont simples. Tu peux les chanter. On veut que ça soit des fois que ça soit épique, que ça soit le fun. On veut que le monde... J'ai du monde qui viennent, ils dansent, ils rient, ils pleurent, ils font tous les temps, tu sais.
Ouais.
Puis nous autres, on veut se sentir de même, on veut triper, puis on veut que le monde tripe. C'est vraiment un projet pour triper, tu sais.
Exact.
Fait que,
et ça paraît sur scène, vous avez du fun, puis vous en avez depuis quand même longtemps. Là. Tu sais, j'ai vu le show à quelques reprises dans différents contextes. Ouais. Et à toutes les fois, ça reste quand même un show physique.
Oui, oui. Oui, oui, nous autres, on est, tu sais, Lisande, l'autre fois, a été obligée de se faire masser le lendemain d'un show, parce qu'on avait un autre le lendemain, elle avait mal dans le dos, elle avait trop être baignée.
C'est un beau moi, problème quand même.
Je serais qu'on s'habille en sport, on fait des étirements avant le show sur scène, on les fait encore, c'est drôle, puis ça nous fait du bien.
Ouais.
Mais c'est physique pour PE, c'est physique parce que lui, c'est une perfodrome tout le temps. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que ce projet-là, on a pu combiner le playing, tu sais, on peut faire des affaires flasheuses si on veut. Puis il y a une satisfaction, je pense, à l'écouter au niveau du playing, de la virtuosité, tout ça. Sans vouloir dire qu'on est les plus virtuoses du monde, mais la virtuosité qu'on a, on peut la show off.
Exact.
Si on veut. Mais en même temps, si tu veux juste entendre des tunes que tu es capable de retenir, puis qui sont le fun, puis que tu peux chanter, t'as ça aussi.
Exact. C'est le meilleur de tous les mondes, finalement. Ouais. C'est la combinaison de tout ça. On vous suit en spectacle quand même. Il y a quelques shows qui se passent cette année, qui vont s'en venir. C'est certain qu'on garde le radar à on.
Il y en a un. Puis celui qui est annoncé à Québec, c'est le 17 mai au Grand Théâtre.
That's it.
Dans le studio du Grand Théâtre. Studio TELUS, c'est vraiment une bonne place pour Ping Pong Go.
Je pense que oui. Ça va être assez le fun. Mais en fait, t'as plus de place, t'as plus de plafond aussi. Fait que...
Ben, le plafond pour l'arc laser, c'est incroyable. Les lasers, ils montent à l'infini.
Je pense que ça va être épique. Ouais. Je pense que oui.
Ça, on a vraiment, vraiment hâte. Puis il va y avoir d'autres trucs l'été. Là, on Québec, c'est le 17 mai.
On retient ça. Merci beaucoup, Vincent Gagnon.
Hey, merci à toi.
C'est tout le temps qu'on avait.
J'en aurais pris une autre.
Mais écoute, on vous donne rendez-vous sur la page de Chiz94.3 où est-ce qu'on va vous mettre des liens vers des projets que Vincent aime, vers de la musique, vers des vidéos. Vous pourrez tout voir ça, mais suivez-le sur les routes du Québec et ouvrez l'œil pour le claviériste crinqué que vous verrez dans le coin d'une scène. Souvent, c'est lui, c'est Vincent Gagnon. Un gros merci encore. Pis,
merci à toi.
Ben, bon printemps.
Yes, bon printemps.
On se voit dans deux semaines, nous, pour mon entrevue avec Sensei H. Passez une belle journée sur les ondes de Chiz. Ciao!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi, 18h30.
Au 94.3.
Chiz. Hell yeah, Chiz.
Pour le meilleur beat, Beatnik Show, man. T'as le dit, c'est malade.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Le temps d'un ginto, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h30 à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et ben du fun, voici ce qu'on te promet pendant une demi-heure à toutes les semaines. Le temps d'un ginto, tu veux pas manquer ça.
A priori, c'est un cocktail de jasette à saveur politique, sociale et militante, gracieuseté des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Au menu, des conversations dynamiques, informées et engagées.